Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma réalisée sur fréquence protestante par l'association Profil. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champour, et animée par Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour, bonjour à tous.
Par Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jacques.
Et par Jean Wilkowski. Bonjour Jean.
Bonjour Jacques et bonjour tout le monde.
Et puis, comme nous sommes encore en janvier, il n'est pas trop tard pour le faire, nous présentons nos meilleurs vœux à tous nos auditeurs que cette année 2015 vous apporte plein de découvertes et de joies cinématographiques. Alors pour notre discussion ce mois-ci, nous avons choisi trois films qui pour une fois sont des comédies. L'actualité cinématographique a plutôt l'habitude de nous fournir abondamment en drames bien noirs. Et ce début d'année nous apporte quelques films qui utilisent le comique, certes parfois grinçant, pour nous parler de nos sociétés passées ou actuelles. Nous parlerons ainsi successivement de Queen and Country, de John Borman, du film Les Nouveaux Sauvages de Diamond Cifron, et de Listen Up Philip, un film de Alex Ross Perry. Et nous terminerons, comme d'habitude, par quelques coups de cœur. Alors on va commencer par le film du vétéran John Borman, Queen and Country. John Borman a 82 ans, il a commencé à 17 ans à travailler à la BBC, ça fait donc plus de 60 ans qu'il est dans le milieu du cinéma, et son premier film comme réalisateur, sauf qu'il peut, date de 1965, donc exactement 50 ans. Il a une vingtaine de films à son actif, dont certains ont marqué leur époque, comme Délivrance par exemple, cette espèce de randonnée écologique en canoë qui se transforme en une barbare sauvagerie. Ou encore ces films mythologiques comme Zardoz ou Excalibur. Mais à côté de ces films d'action ou de science-fiction, il a aussi réalisé en 1987, donc il y a presque 30 ans, un film autobiographique, Hope and Glory, sur son enfance. Et il reprend aujourd'hui, donc après un long passage, l'histoire de sa jeunesse avec ses souvenirs du service militaire dans Queen and Country. Alors Jean, qu'en a fait John Borman de ses souvenirs? Est-ce que c'est une farce burlesque du genre Les Bidas en folie ou une comédie sentimentale et nostalgique?
Eh bien Jacques, je suis plutôt d'accord avec ta deuxième proposition. Et comme tu viens de le dire, Borman a repris l'histoire d'un petit Anglais de 7 ans pendant le Blitz de Londres en 1941-42. D'ailleurs, la première scène de Queen and Country est une des dernières scènes du film précédent, et où l'on voit le John Bill sauter de joie devant son école bombardée par les Allemands. On retrouve ensuite Bill, 10 ans plus tard, attendant sa convocation pour partir faire ses 2 ans de service militaire. Nous sommes alors en 1952, en pleine guerre de Corée. Commence alors la partie la plus drôle du film, où l'on voit Bill et son copain Percy en but à la machine à décerveler qu'est l'institution militaire anglaise, bien proche, hélas, de celle que nous avons connue en France lors de notre incorporation. Immense chambrée, manœuvre dans la cour, brimade, et surtout présence d'un sous-officier, Bradley, spécialement borné et fanatique de la discipline. Nos deux amis s'en sortiront en devenant instructeurs de dactylographie et en jouant à leur hiérarchie des tours de potache, comme le vol d'une pendule donnée au régiment par la reine Victoria. Est-ce nos propres expériences ou l'art du metteur en scène? Toujours est-il que nous nous amusons bien. Durant leur permission, nos deux héros seront bien entendu confrontés aux filles et aux difficultés qu'avaient les garçons des années 50 pour s'attirer des faveurs de ces dernières. Drague pendant un concert de musique classique, bal, recherche désespérée pour trouver un coin tranquille ou acrobatie invraisemblable pour apercevoir un bout de sein. Tout cela est vu avec beaucoup de tendresse et n'est pas sans réveiller quelques souvenirs et quelques sourires de notre part.
Et peux-tu expliquer le titre du film?
Oui, bien sûr, nous sommes en 52, date charnière pour l'Angleterre, car c'est l'année de la mort du roi George VI et du couronnement d'Elisabeth II. Mais c'est aussi pendant cette décennie la fin de l'Empire britannique, ce qui fait que les militaires de carrière, qui autrefois prêtaient serment sur « The King and Country », devront désormais dire « Queen and Country ». Ce deuxième mot « country » étant fortement dévalué. Un officier regrette de ne plus reconnaître son pays. Dans le même ordre d'idées, le film évoque les difficultés de classe sociale et les difficultés de passage entre elles. Bill est amoureux d'une fille issue de l'aristocratie et Borman montre bien la possibilité d'un tel amour, Bill appartenant à la classe moyenne. On s'amuse aussi des différents accents très marqués en Angleterre, selon les milieux sociaux. Tout cela est dit légèrement, mais dit tout de même.
Et alors, le cinéma dans ce film, que peut-on en dire?
Borman est manifestement un amoureux du cinéma, et il ne manque pas de nous le montrer. Tout au début, on voit un tournage, et il y a cette phrase qui dit qu'au cinéma, l'avantage, c'est qu'on peut faire autant de prises que l'on veut, alors que dans la vie, on ne peut pas. Et le film se termine aussi par une prise de vue, où Bill est à la caméra. D'ailleurs, Borman deviendra assistant à la BBC, juste après son service militaire. De nombreuses allusions aussi au cinéma de cette époque. Rashomon de Kurosawa, L'inconnu du Nord Express d'Hitchcock, Laura de Preminger, et cela nous réjouit. Il me faut encore dire deux mots des acteurs, tous excellents, et surtout so British. On se croirait revenu au temps des comédies anglaises, style Noblesse Oblige ou Passeport pour Pimlico. Callum Turner et Caleb Landry-Jones, les deux bidasses un peu boutonneux, sont criants de vérité. Et donnons aussi un coup de chapeau à David Tulis, dans le rôle du sergent-major psychopathe Bradley. Bien sûr, j'entends déjà les cinéphiles avertis que sont mes collègues ici présents faire la moue en disant que le film est décousu, que ce n'est qu'une suite de scènes sans continuité, que c'est du cinéma de papa sans mouvement de caméra originaux. C'est vrai. N'empêche que je me suis bien amusé et que vous en ferez autant.
Alors, Marie-Jeanne, toi qui n'as pas eu la joie de faire ton service militaire, est-ce que tu t'es autant amusée?
Alors, quelquefois je suis d'accord avec Jean, mais là, alors, c'est invraisemblable parce que je ne suis peut-être pas de ces cinéastes avertis, mais en tout cas, je peux vous dire que je n'ai pas ri du tout et même pas souri une seconde. Sans doute, je ne suis pas sensible à l'humour anglais. Alors, le film, j'ai trouvé que ce film était manichéen, caricatural, filmé avec les pieds, ça part dans tous les sens. Et les acteurs principaux, pardon, mais je ne les ai pas trouvés aussi attachants que Jean, et le personnage même de Percy m'a paru tout à fait insupportable. Alors, moi, je m'y suis ennuyée copieusement, vraiment. J'ai failli à plusieurs reprises sortir de la salle, d'autres l'ont fait pour moi d'ailleurs, et tu as écrit dans l'affiche « Surtout précipitez-vous ». Alors, non, surtout restez bien au chaud chez vous, n'allez pas voir ce film, voilà.
Alors, Jean-Michel, est-ce que c'est uniquement une question de service militaire ou fait ou pas, ou est-ce que qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Non, c'est pas une question de service militaire, moi je partage complètement ce que dit Marie-Jeanne, avec peut-être moins de véhémence, parce que j'ai quelques bémols, mais enfin, je crois qu'on peut effectivement rester chez soi, et j'avoue que j'ai eu du mal, je suis même, je l'avoue, parti un petit peu avant la fin, parce que c'était insupportable. C'est très autobiographique, je pense que le cher Borman s'est fait plaisir, et tant mieux, il nous refait un cinéma de papa, comme il l'a fait un certain nombre de fois, et notamment après Hope and Glory. Donc il se fait plaisir, mais il nous fait pas vraiment plaisir, parce que nous on trouve que c'est quand même très très désuet, c'est assez caricatural. Percy, l'ami Percy, est absolument antipathique, il n'a vraiment rien pour lui. Le personnage touchant est peut-être celui qui est justement censé représenter Borman lui-même, c'est-à-dire Bill. On pense un peu à Mash, on pense un petit peu à toute une série de bidasses en folie, on pense aussi au lavage de cerveau de Full Metal Jacket de Kubrick, mais tout ça fait peu de choses, c'est gentillet, c'est très répétitif, et j'avoue que je suis un peu déçu, parce que ce que nous en avait dit Jean nous avait incité à y aller la bouche un petit peu en cœur. Eh bien voilà, j'en suis fâché.
Oui, moi je suis peut-être pas aussi dur que vous, mais je suis un peu aussi déçu par ce film. Je pense que la difficulté, sans doute, est que le sujet qu'il traite, le service militaire ou les premiers amours, c'est un sujet qui est assez ressassé. Et donc, pour traiter ça, il faut vraiment un peu apporter des choses nouvelles ou être sur un rythme très très soutenu. Et je pense que c'est un peu le reproche que je fais à ce film. Il se veut une comédie et il manque un peu de rythme.
Et de folie,
voilà. C'est peut-être ça qu'on... En fait, je pense que c'est ça qu'on attend et qu'on ne trouve pas. À l'inverse, ce que j'ai trouvé quand même assez bien fait et assez attachant dans ce film, c'est la peinture justement d'une société qui est un peu en train de basculer hein, comme l'a dit Jean, 52, l'Angleterre se relève à peine de la guerre, l'Empire britannique est en train un peu de se déliter, on voit bien que les classes sociales sont encore très fortes, que les mœurs sont en train d'évoluer, mais lentement. Donc, cette peinture, à mon avis, de la société anglaise est assez bien faite, mais c'est vrai qu'on aimerait rire plus, quoi.
Mais c'est vrai parce que on est en 1952 et le film est daté de cette époque. Et il aurait pu être presque fait à cette époque-là d'ailleurs parce qu'il a le style de cette époque, il est dans cette époque.
Ça aurait été mis à son crédit.
Si vous aimez le cinéma des années, moi j'ai adoré le cinéma anglais des années 50 et je l'ai retrouvé à cet endroit-là et ça m'a énormément plu. C'est ça qui m'a surtout beaucoup plu.
Oui, alors ce qui est intéressant d'ailleurs de ce point de vue-là, c'est que on connaît assez mal, en France en tout cas, l'Angleterre et le cinéma des années 50. Autant on connaît très bien les cinémas anglais des années 60 ou 70.
On connaît David Lean quand même, on connaît ce qu'a fait David Lean.
Oui, mais... Et Alec Guinness,
c'est vrai. Mais c'est un peu différent quand même, comme style de ça.
C'est quand même un peu le même humour, et ce sont des acteurs qui sont inspirés, qui viennent du théâtre, qui sont... c'est assez étonnant d'ailleurs d'arriver à faire maintenant un film qui a 60 ans de retard. Mais quand on aime ce cinéma, il faut y aller.
Oui, alors avec quand même une petite différence.
L'humour.
Dans mon souvenir, les films d'Alec Guinness, par exemple, sont très structurés au plan scénario. Alors que là, en fait, je pense que c'est aussi ce qui nous gêne peut-être un peu, c'est qu'il n'y a pas une histoire vraiment. Il y a une succession d'anecdotes sympathiques. Et comme disait Jean-Michel, bon, John Borman s'est fait un peu plaisir en remettant ces anecdotes. Bon, elles nous touchent plus ou moins, quoi.
Oui, vraiment. Plutôt moins que plus.
Plutôt plus que moins.
On est d'accord. Non, mais bon, il y a des choses intéressantes dans ce film, mais effectivement, peut-être un peu de déception. Alors, nous allons passer au film suivant avec Les Nouveaux Sauvages. Donc, un autre pays, un autre style, puisque nous partons en Argentine. Donc pour le film de Damien Ziffron, et qu'il ne s'agit plus du tout de douce nostalgie, mais alors vraiment d'une farce grinçante, quoi. Alors Damien Ziffron est un jeune réalisateur argentin de 39 ans. C'est son film Les Nouveaux Sauvages et son troisième long métrage, après El Fondo del Mar de 2003 et Tiempo de Valentes en 2005. Et Ziffron est surtout connu en Argentine pour la réalisation en 2002-2003 d'une série télévisée qui s'appelait Los Simuladores. Et cette série très populaire mettait en scène une équipe d'acteurs qui utilisait des moyens plus ou moins légaux pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne posés par les téléspectateurs. Donc c'était une série qui a beaucoup de succès, et la philosophie de cette série était que la loi n'est pas toujours juste, et que ce qui est juste n'est pas toujours conforme à la loi. Or, on retrouve tout à fait cette philosophie dans son nouveau film, qui était présenté en sélection officielle au Festival de Cannes, et qui est nominé aux Oscars d'ailleurs pour le prix du meilleur film étranger. Alors Marie-Jeanne, dans quelle catégorie tu rangerais ce film ? Burlesque, comédie noire ?
Ben, écoute, on pourrait classer ce film dans la catégorie des comédies, mais des comédies noires, certainement. Parce que sur un mode humoristique grinçant, Xiffron nous présente 6 sketchs dans lesquels les personnages sont confrontés à des situations insupportables et qui réveillent leur violence et leur font perdre complètement leur repère. Alors, rapidement, dans un avion, les passagers découvrent qu'ils ont tous une connaissance en commun. Dans un restaurant, la serveuse reconnaît l'homme qui a provoqué la ruine et le suicide de son père. Une querelle entre deux automobilistes vire au drame. Un ingénieur marié, père de famille, se révolte contre l'absurdité de l'administration. Le fils d'une famille riche provoque un accident mortel avec la voiture de son père. Et le dernier récit, qui est un peu l'apothéose du film, le jour de son mariage, la mariée découvre que son mari l'a trompée avec une convive présente. Et je dois dire que l'ensemble nous donne un film assez jubilatoire.
Alors tu dis jubilatoire, mais plus précisément, qu'est-ce que tu as aimé dans ce film ?
Eh bien, on retrouve dans les personnages de ce film la même énergie, la même folie latente, les mêmes crises de nerfs que dans certains films d'Almodovar, dont il est d'ailleurs le coproducteur avec son frère. Dès le prologue, d'ailleurs, le rire s'installe et je dois dire que le public cannois n'a pas boudé son plaisir. Petit à petit, à la manière d'un roman d'Agatha Christie, on découvre que tous les passagers ont un lien commun avec un certain Pasternak. Alors, la suite, je ne vous la dirai pas. Mais elle donne le ton du film, drôle mais d'un rire grinçant et noir. Les personnages sont souvent affreux, méchants. Et la traduction du titre de « Récit sauvage » en « Nouveau sauvage » est une claire allusion aux monstres et nouveaux monstres d'un certain Dino Rizzi. Alors, dans une Argentine en crise, Xiprone a voulu nous montrer comment, dans une société bloquée, où la corruption, où les passe-droits écrasent les citoyens, où le sentiment d'humanité élémentaire n'a plus aucune place, un incident parfois mineur peut provoquer un déchaînement d'une violence inouïe, violence qui d'ailleurs est toujours à fleur de peau. Et il nous dit qu'il a pris des exemples dans la vie courante, il a vraiment fait part de ses propres expériences. Et il se situe dans une société extrêmement policée. Et lorsqu'on est en butte à la bêtise des autres et des servitures des institutions, et lorsqu'on est aussi en butte au manque de civisme et de manière générale, il faut le dire, à tous ceux qui, au quotidien, vous pourrissent la vie, eh bien, on peut perdre ses repères et devenir un peu fou, quoi. L'État, la justice, la police, les riches, la famille, tous en prennent pour leur grade.
C'est vrai. Et il avait effectivement rencontré un franc succès dans le public à Cannes, mais n'est-il pas quand même un peu inégal ?
Ah oui, certes, le film n'échappe pas à ce que l'on peut dire des films à sketch, ils sont inégaux. Oui, certaines histoires sont drôles, d'autres beaucoup moins. Oui, certaines sont réussies, d'autres un peu moins. Mais à mon avis, ce n'est pas nécessairement un reproche, car ici nous avons un seul réalisateur, ce qui donne au film dans son ensemble une unité de ton et de rythme. Et puis, il faut dire que la mise en scène est efficace et elle est servie par un montage extrêmement énergique. Et tout au long du film, on a cette idée simple, ce fil rouge qui traverse tous les sketchs. À travers tous les sketchs, il décline que que l'on soit bon, méchant, simple, cultivé, riche, pauvre, victime ou bourreau, nous risquons tous de finir un jour dans une explosion de haine et de mort. Alors, le réalisateur a quand même le bon goût, et c'est un peu la lueur d'espoir dans ce marasme épouvantable, de nous montrer dans certains récits, et notamment dans le dernier, qu'après ces déchaînements paroxystiques, eh bien, l'amour et le pardon peuvent trouver leur place.
Belle, beau final. Bon, alors, est-ce que nous avons plus de consensus sur ce film ou pas, Jean?
Oui, enfin, pour moi, en tous les cas, je ne sais pas ce que va dire Jean-Michel, mais moi, j'ai bien rigolé. C'est vrai qu'on s'amuse bien. Et ce qui m'a surtout fasciné dans ce film, c'est l'inéluctabilité de l'engrenage. C'est-à-dire que dès le départ,
mais ça, c'est très bien fait.
On sait que ça va mal finir. On regarde arriver cette chute, arriver cette catastrophe. On la voit arriver. Oui, plus on la voit arriver, plus elle est grosse, plus on rigole finalement parce que...
Comme l'avion.
Oui, exactement. Comme l'avion. On sait que ça va cracher à la fin. Ça peut pas faire autrement. Et c'est ça qui est assez amusant et qui le différencie d'ailleurs de Rizzi, qui était plus subtil.
Oui.
Parce qu'il est quand même...
C'est
on
vrai,
peut pas dire
vrai.
Qu'il soit subtil.
C'est vrai. Ça n'est pas subtil, mais au moins on rit et ça fait mal aussi quelque part.
Oui, oui, absolument. Donc, franchement, bien.
Jean-Michel.
Ah. Oui, alors bon, je vais être plutôt assez négatif et d'une façon surprenante en ce qui me concerne, parce que quand j'avais vu ce film à Cannes, j'avais été bluffé. Je le reconnais que j'avais eu un peu les mêmes réactions que Marie-Jeanne sur ce film. Je reprends tout de même le terme qu'elle vient d'employer sur le bon goût. Il a le bon goût de... Non, il n'y a aucun bon goût là-dedans. Il n'y a aucune subtilité. C'est quelque chose d'extrêmement lourd. Mais il y a une chose qui est bien, c'est effectivement le prologue qui tout de suite vous conditionne et qui, là, est une réussite absolue. Et puis, il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, mais qui, à mon avis, est la meilleure partie du film, c'est le générique. Le générique avec des animaux qui en font un véritable bestiaire. humoristique où chacun des acteurs et techniciens du film se voit attribuer une certaine correspondance qui n'est pas le fruit du hasard si on regarde bien. Et pour le générique, peut-être, le film peut être sauvé. Parce que pour le reste, s'il n'y avait pas l'auto, s'il n'y avait pas l'automobile, il y aurait 3 sketchs sur 4 ou sur 5 et qui tomberaient. Et la lutte bestiale des automobilistes, la mise en fourrière répétitive ou l'accident mortel créé par le fils à papa Benet sont tout à fait relatés à l'automobile. Alors, le quatrième sketch, enfin celui du mariage, effectivement, je reconnais que ça rejoint le meilleur du burlesque américain, mais comme tu l'as dit, Marie-Jeanne, est un burlesque très grinçant où on rit plutôt jaune. Moi, j'ai pas beaucoup ri dans l'ensemble. Et même si ce film montre bien l'étroite frontière qui sépare la civilisation de la barbarie, c'est quand même une série de fables, mais qui sont tristes, lourdes et vulgaires. Et je suis maintenant assez déçu en le revoyant à distance.
Oui, mais alors, Jean-Michel, je crois que c'est un film qu'il ne faut pas revoir.
Comme souvent,
je me suis fait cet
Mais il y a des films comiques qu'on peut revoir quand même. Les Marseillais, moi je les revois très souvent.
Ah, mais bien sûr, il y a des films qu'on peut revoir. Ce film est un film à voir, mais pas à revoir. Parce que, enfin, pour être plus précis, les premiers sketchs qui m'avaient énormément plu à Cannes sont des sketchs vraiment rentre-dedans, qui tape, qui cogne le spectateur, mais une fois qu'on les a vus une fois, il est sûr que l'effet est complètement passé. Les sketchs suivants, qui sont plus longs, qui sont plus profonds, où on a le temps de mettre en place les personnages, résistent mieux, en fait, à la deuxième lecture. Donc moi, c'est un film que je trouve quand même assez intéressant, parce que, bon, effectivement, ça cogne. Hein, c'est parfois à la limite, enfin, ou même ça a dépassé la limite du Grand Guignol. Mais le Grand Guignol, il y a un avantage, c'est qu'il donne de la distance avec, je dirais, avec la barbarie. C'est ça l'intérêt du Grand Guignol. Et puis il y a quand même quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est la progression de ces sketchs, parce que justement les trois premiers sont vraiment du gros, très gros comique, et les trois suivants sont beaucoup plus complexes. Et donc intéressant.
Surtout le dernier, d'ailleurs. Hein.
Oui, mais même celui, par exemple, de l'ingénieur qui se fait prendre sa voiture, il est assez bien articulé, assez profond quand même.
Oui, moi je suis d'accord. La deuxième vision, je n'ai pas ri du tout. C'est bon. Et je me demandais pourquoi j'avais tant ri à Cannes. Mais Jean-Michel, aussi, la voiture, elle fait partie de notre quotidien. Oui. C'est normal qu'on la mette en scène. Enfin, et puis nous avons tous été un jour confrontés à une situation dans laquelle on avait envie de tout faire sauter. Et c'est au fond ça que ça nous raconte et ça nous parle, quelque part.
Oui.
La joie de s'abandonner à ses pulsions.
Non, c'est pas la joie.
Mais justement, à travers le film,
je pense que le message dans l'ensemble du film, c'est un petit peu, faut-il au fond s'indigner devant les injustices au risque de se pourrir la vie, ou bien est-ce qu'il faut finalement les subir pour avoir la tranquillité. Il y a des personnages qui disent ça à un moment, d'ailleurs, quand il attend dans la queue des amendes, il dit, ou bien tu payes et tu te détends, ou bien tu meurs de stress.
Voilà.
Alors c'est peut-être un peu pessimiste comme conclusion, mais c'est quand même intéressant.
Oui. C'est une belle conclusion.
Oui. Enfin, les injustices, c'est un bien grand mot, parce que c'est quand même des blessures d'amour propre ou de...
Ah bah pas uniquement.
Ou des impatiences.
Quand l'entreprise de ramassage des voitures est aux mains de mafieux qui enlève les voitures à tout bout de champ, même quand on n'est pas en infraction,
que tu as subi cela.
Nous passons, Bon, enfin... Il faut y aller, mais pas y retourner.
Voilà. Mais allez. Bon, alors nous passons au troisième film qui est... On reste en Amérique, mais en Amérique du Nord cette fois, et plus exactement sur la côte est des États-Unis avec le film de Alex Ross Perry, Listen Up, Philip. Alors Alex Ross Perry est encore un plus jeune réalisateur, puisqu'il n'a pas 30 ans, il est né en 85, mais c'est déjà son troisième film. Son premier Impolex, ce film à tout petit budget, est sorti en 2009, et son second, The Color Wheel, une comédie noire, date de 2011. Et Listen Up, Philip a été présenté au festival de Sundance et à celui de Locarno. Alex Ross Perry voue une grande admiration pour l'écrivain américain Philip Roth, qui avait déjà influencé son second film The Color Wheel, et il récidive donc avec Listen Up, Philip, en mettant en scène deux écrivains, l'un jeune, l'autre âgé, dans une relation qui n'est pas sans rappeler, pour ceux qui l'ont lu, The Ghostwriter, un des grands romans de Philip Roth, dont il reprend d'ailleurs un peu le style dans l'incessante voix off qui accompagne les images du film. Alors Jean-Michel, est-ce qu'on peut parler avec ce film, je ne sais pas si ça se dit, d'un film littéraire ?
Bon, je ne suis pas bien sûr de savoir ce qu'est un film littéraire. Est-ce que c'est un film qui adapte au cinéma une œuvre littéraire ? Est-ce que c'est un film qui adopte un ton littéraire dans sa narration et dans son traitement des personnages ? Est-ce enfin un film qui s'attaque au mystère de la création littéraire et à son éclosion ? Probablement tout cela à la fois. Et il est vrai qu'on peut trouver dans Listen Up Philip chacune de ses composantes. Alex Rosperi, comme tu l'as dit, est un représentant du cinéma indépendant new-yorkais, du mouvement appelé Mumblecore, qui est une mouvance actuelle de cinéma, avec des films caractérisés par une production pauvre, fauchée, souvent tournée en numérique, des sujets tournant autour des relations entre les personnes de 20 à 30 ans, ce qui est l'âge du réalisateur, des dialogues en partie improvisés, des acteurs non professionnels. Perry est ouvertement influencé, tu l'as dit, par Philip Roth, par Jerry Lewis aussi, et l'écrivain non-conformiste Thomas Pynchon, qui a une situation tout à fait particulière dans la littérature américaine. Et de fait, dans ce film qui a obtenu le prix du jury à Locarno, le récit est mené par la voix off d'un narrateur très littéraire, qui est Perry lui-même.
Alors de quoi s'agit-il ? Y a-t-il vraiment une histoire ou est-ce une sorte d'installation cinématographique ?
Eh bien, non. S'il est vrai que ce film très original et déjanté dans la tradition d'un certain cinéma indépendant américain surfe sur l'absurde des situations et démontre que l'intelligence et la sensibilité sont quelquefois des handicaps dans la vie courante, c'est bien une histoire qu'il raconte. Alors, quelle histoire ? Philippe, qui est Jason Schwartzman, acteur chéri de Wes Anderson et véritable double ici de Perry, à la fois très à l'écoute de lui-même, très narcissique et en grande demande d'amour et d'admiration, est un écrivain uniquement préoccupé par la réussite de son second roman. Refusant cependant paradoxalement d'assurer la promotion de ce roman, il part au risque de se couper de sa petite amie qui est photographe, Ashley, jouée par Elizabeth Moss, se ressourcer dans la maison de vacances de son idole qui est le grand écrivain Ike Zimmerman, personnage manifestement inspiré de Philip Roth, qui est Jonathan Pryce dans le film, un égotiste lui aussi, mais célèbre et misanthrope, qui s'est lui-même coupé très gravement de sa fille Mélanie, qui est l'actrice Kristen Ritter.
Et donc ces deux écrivains, le grand et le petit, ils ne courent pas ensemble à la catastrophe ?
Nourri du Woody Allen de Mari et femme et du Cassavetes de Faces, ce film à la mise en scène étincelante va vite, très vite, et le spectateur doit s'accrocher pour suivre à travers des échanges brillants, cyniques et drôles, ce qui paraît bien être la course à l'abîme, effectivement, de deux êtres surdoués, deux créateurs inadaptés à la vie quotidienne et incapables de générosité et d'amour. Le titre du film déjà tente de mettre Philippe en garde. Écoute un peu. Écoute voir, mais écoute donc. Peine perdue, l'archétype de l'intellectuel juif névrosé, à la fois hyper agaçant et profondément touchant par sa vulnérabilité, dame le pion à Woody lui-même. Heureusement, en joli contrepoint à l'étalement de cette misère masculine, de nombreuses digressions renouvellent l'intérêt de la narration par autant de personnages féminins, attachants, qui traduisent les échecs sentimentaux du héros, ou plutôt du anti-héros qu'est Philippe, renvoyé dans une spirale d'autodestruction à sa solitude de créateur et à ses livres. La performance des deux écrivains, le grand et le petit, qui jouent sur un ton aigre-doux d'un humour distancié, noir et mordant, me paraît remarquable.
Alors, Jean et Marie-Jeanne, partagez-vous cet avis enthousiaste?
Pas complètement. Pas tout à fait. Alors, je serais peut-être, en ce qui me concerne, moins virulente que pour Queen and Country, mais Philippe, c'est Woody Allen sans l'humour, et bâtir tout un film sur un personnage aussi repoussoir, je dois dire que c'est très osé. Et Alex Rosperi a certainement l'habileté, de nous faire souffler un peu, en suivant l'attachante Ashley ou l'infernal avec Zimmerman. Mais il reste que Philippe finit quand même par nous épuiser, et la question principale de ce film devient sa propre limite. Ici, on ne retrouve pas la distanciation qui nous fait supporter Woody Allen, ni le pouvoir cathartique du rire. Le film finit par devenir gênant, irritant, et par ressembler à son personnage principal, c'est-à-dire insupportable. On finit par se fatiguer de ce microcosme nombriliste des intellectuels intellectuel new-yorkais, je dois dire, n'est pas Woody Allen qui veut.
Jean.
Je suis tout à fait d'accord avec, avec ma collègue ici, présente en ce qui concerne le fond du film. Mais je voudrais insister sur la forme qui m'a aussi complètement exaspéré et que j'ai trouvé absolument insupportable. En particulier, il fait quasiment tout à caméra à l'épaule, c'est-à-dire qu'on a une image tremblotante, alors que ça ne se justifie absolument pas, étant donné que ce sont des films d'intérieur essentiellement, donc strictement aucun intérêt de faire de la caméra à l'épaule, qui est sur, pour l'extérieur, pour la rue. Donc on a l'impression qu'il fait ça, on ne sait pas pourquoi. De même, on passe par exemple du personnage principal. D'abord, on parle beaucoup de Philippe, puis après, on parle beaucoup d'Ashley, puis après, on parle beaucoup de Ike.
On respire entre toi parce que Philippe
sans vraiment beaucoup de bon, ça se comprend pas. En plus, il y a le commentaire off qui est là aussi complètement beaucoup trop prétentieux et beaucoup trop présent. Oui. Donc franchement, non.
Désolé Jean-Michel, mais je vais aller un peu dans le sens de mes collègues aussi. Je pense que l'intérêt de ce film est peut-être effectivement dans la prise de risque en prenant un héros égocentrique, narcissique et insupportable. Ça, je le reconnais. Par contre, je trouve, et alors là, je suis étonné que tu aies cité des gens comme Cassavetes, en termes de cinéma.
Il a eu un prix Cassavetes.
Ben peut-être, mais quand on est obligé d'expliquer en voix off, pendant tout le film, les sentiments des personnages, c'est qu'on est incapable de les montrer par des images.
Mais c'est ça la distanciation.
Non, et c'est pas la distanciation, c'est qu'on n'est pas capable de faire son boulot cinéaste.
Pas du tout, c'est une richesse supplémentaire.
Non.
Je vois que vous êtes passé complètement à côté de qui est considéré par certains comme le meilleur film américain depuis des décennies.
Non,
il faut que les auditeurs aillent nous départager.
Non,
parce que ce film est absolument jubilatoire.
Non, il n'est pas jubilatoire. Non, il y a des choses bien. Non, là où je te suis quand même, c'est qu'il y a quelques morceaux qui sont assez bien, qui sont même bien, et je pense que ça peut faire un grand réalisateur, parce qu'il a quand même que 30 ans. Hein. Ceci étant, je considère que ce film-là n'est pas encore au niveau des grands aînés qu'on a cités, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui a des prétentions, qui veut sans doute, et c'est peut-être là la difficulté, pour être honnête, je lui trouve des excuses, parce que, au fond, parler du milieu des écrivains n'est pas forcément si évident au cinéma. Donc je pense que c'est peut-être, il s'est lancé une gageure que moi je trouve, bon toi tu la trouves très réussie, moi je la trouve qu'à moitié réussie, mais voilà. Quoi.
C'est extrêmement brillant, et ce n'est pas Xavier Dolan, mais il est dans la même...
Il a un très brillant avenir. Tu vois Xavier Dolan, expliquez-toi off.
Enfin, n'empêche que vous pouvez quand même lire les bouquins de Philippe Roth. Je continuerai à lire Philippe Roth.
Le bouquin dont je parlais, Ghostwriter, dont on retrouve effectivement même presque les noms et même le style, hein, parce que la voix off est inspirée, en ça il a fait du bon travail, hein, est inspiré du style de Philippe Roth. Oui. Mais alors l'original une autre tenue. Bon,
je me trouve devant un mur d'incompréhension que je déplore, et j'incite nos auditeurs à aller voir le film.
Absolument, non, mais je pense que ça vaut le coup de vous faire votre idée. Et encore une fois, il y a des choses bien dans ce film, hein, mais voilà, un peu déçu. Bien, alors, nous allons passer maintenant au coup de cœur. Là, il n'y aura plus de discussion. C'était une séance qui était très animée, mais là, chacun défend, son coup de cœur. Donc, nous n'aurons pas, même peut-être si nous le pensons, des objections. Donc, je voudrais parler d'abord très rapidement de Foxcatcher. On avait peut-être envisagé aussi pour la discussion, finalement, on n'a pas retenu. C'est un film de Bette Miller. Et nous sommes nombreux à nous souvenir de son film The Truman Capote, qui date de 2006 et qui relatait un épisode de la vie du grand écrivain. En fait, son enquête sur un quadruple meurtre dans le Kansas qui l'avait conduit à écrire De sang-froid. Bennett Miller s'appuie à nouveau pour Foxcatcher sur un fait divers, l'histoire du milliardaire John Dupont, qui entraîna à ses frais l'équipe américaine de lutte pour les JO de 88, et notamment les deux frères Dave et Mark Schultz, et qui, mégalomane et instable, finit par tuer Dave Schultz, et passa les 15 dernières années de sa vie en prison. Donc c'est un épisode assez connu dans l'histoire américaine. Alors c'est un film sur les lutteurs, et j'imagine très bien les réserves que vous pouvez avoir. Eh bien, il faut les surmonter, car Foxcatcher n'est pas vraiment un film sur la lutte, mais c'est un film passionnant sur l'autorité, le pouvoir de l'argent et la folie. Dave Schultz, l'aîné des frères Schultz, donc tous deux médaillés olympiques, est un homme tranquille, aimable, intelligent, dont l'autorité naturelle s'impose à tous ceux qu'il rencontre, mais aussi à son frère Marc, qui lui est un garçon plus faible et souvent irrité de vivre dans l'ombre de son frère. Et John Dupont, lui, est l'héritier d'une richissime famille bien connue. Il a des rêves de grandeur, veut être un chef, servir son pays en réalisant des exploits, mais il n'est qu'un faible, un névrosé, pas encore sorti de l'emprise de sa mère. Seulement, il a pour réaliser ses rêves de fou beaucoup d'argent. Et il invite Marc puis Dave à venir s'entraîner dans sa propriété luxueusement équipée. Alors le film montre les relations entre ce trio et la mégalomanie croissante de John, qui finira donc dans le meurtre de Dave. Le John est interprété par Steve Carell, beaucoup plus connu pour ses rôles comiques, et qui campe un John fascinant, transpirant la folie à travers son regard fuyant. L'ensemble de l'interprétation est exceptionnel et porte un film qui donne à réfléchir beaucoup plus que ce que pourrait laisser présager son synopsis. Donc voilà pour Foxcatcher. Hope. Jean, tu veux nous parler de Hope?
Oui. Hope est un très beau film français de Boris Lofkin, présenté à Cannes l'an dernier. Le réalisateur en est lui-même remarquable. C'est un normalien, agrégé de philo, qui quitte l'université pour le Vietnam, où il réalise deux films documentaires. Ici, il change de continent pour se plonger dans l'Afrique des migrants subsahariens qui veulent gagner l'Europe et échouent devant les barrages de Melilla, enclave espagnole au Maroc. Alors qu'il traverse le Sahara, Léonard, un jeune Camerounais, vient en aide à Hope, une Nigériane. Le monde de la migration est un monde terrible, où dans chaque ville étape, les différentes communautés ont leur ghetto, dirigé par une équipe mafieuse qui rançonne ce qui passe entre leurs mains. La situation des femmes, bien sûr, est encore plus terrible. Le film ne raconte pas une histoire d'amour classique. Cela n'aurait aucun sens de plaquer un schéma romantique sur un monde où il n'a pas cours. Pendant les deux tiers du film, Léonard et Hope parlent plus d'argent que de sentiments. Ils s'accrochent l'un à l'autre sans le désirer. Pour eux, c'est la survie qui prime. Et ce n'est peut-être qu'à la fin, quand le film s'achève, que l'on peut dire qu'on a vu un film d'amour. Il n'y a pas un seul acteur professionnel. Tous les réalisateurs sont de vrais migrants. Pour trouver Léonard, le réalisateur a écumé les ghettos camerounais de Rabat, et pour Hope, cela fut encore plus compliqué, car la quasi-totalité des Nigérianes sont des prostituées. De même, les protagonistes parlent souvent des langues différentes, et cela accentue encore la rudesse des rapports entre les personnages. Une plongée dans un monde que nous ne connaissons pas, et le fait que ce n'est pas un documentaire, mais une fiction, augmente encore, à mon avis, la charge émotionnelle de ce film.
Alors, Marie-Jeanne, tu voulais nous parler de The Most Violent Year.
Yes. Ce film est sorti le 31 décembre, mais comme il tient toujours l'affiche,
oui,
je prends le risque d'en parler. C'est le troisième film du réalisateur G.C. Chandor, après, en 2011, Margin Call, qui était un quasi huis clos qui se déroulait dans les coulisses de Wall Street, et All Is Lost, présenté à Cannes en 2013, où deux heures durant, Robert Redford se bat contre une mer déchaînée dans un voilier à la dérive,
ah oui,
qui
vrai.
Était très bon. Alors ici, nous sommes en 1981. C'est une des années les plus terribles à New York en matière de criminalité. Et dans ce cadre, Abel Morales, superbement incarné par Oscar Isaac, qu'on avait remarqué dans Inside Lewis Davis des frères Cohen, a une entreprise de vente de fuel, héritée de son beau-père, et qu'il veut faire grandir, mais pas avec les procédés mafieux comme son prédécesseur, mais honnêtement, quelle gageure. Soudain, on lui vole ses camions chargés de fuel, les concurrents sapent sa clientèle, les banques commencent à le lâcher, et c'est dans cette atmosphère angoissante où rôde la violence, la corruption, la menace de la faillite et la menace tout court, et où coule le sang, que notre héros se débat en essayant de comprendre d'où viennent les coups, en tentant de rester honnête, en voulant respecter la loi. Par exemple, il refuse d'armer ses chauffeurs contre l'avis de ses proches. Il se bat contre tous, d'ailleurs, et même contre sa femme, Jessica Chastain, qui est beaucoup moins bridée par la morale que lui. Ce qui a fait dire à certains critiques qu'on se trouvait devant un polar à l'envers. Ici, on est complètement pris dans cette histoire noire et dense et qui ne tombe jamais dans le même manichéisme ni dans le conte moral. Alors incontestablement, Chandor a le sens du suspense, Excel a dévoilé en quelques traits la psychologie des personnages qu'il veut mettre en scène. Alors je terminerai en disant que malgré une fin relativement positive, on ne sort pas de ce film rassuré et apaisé. Chandor nous prouve une fois encore comment la machine économique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, laisse peu de chance aux individus qu'elle peut transformer et broyer.
Effectivement, un très beau film et très soutenu comme rythme. Jean-Michel, tu voulais nous parler d'un documentaire, Les règles du jeu.
Oui, moi je suis content de terminer avec un documentaire. C'est un documentaire qui est à la fois passionnant, aussi passionnant que déprimant du reste. Écrit par Patrice Chagnard et Claudine Boris et programmé en 2014 à La Cide au Festival de Cannes, il fait suite au film Les Arrivants des Mêmes qui traitait de l'accueil des immigrés à la CAFDA. Cette fois-ci, il s'agit d'Ingeus, une société privée sous contrat avec laquelle qui est en contrat avec l'État, dont la mission est d'aider les tout jeunes demandeurs d'emploi sans qualification à, ouvrez les guillemets, développer leur employabilité, fermez les guillemets, principalement dans les villes de Roubaix et Tourcoing, mais Ingeus possède 35 sites répartis sur le territoire français. Cette société verse 300 euros par mois pendant 6 mois aux jeunes demandeurs d'emploi, mais en contrepartie, ces derniers doivent suivre scrupuleusement les dates et horaires des entrevues destinées à leur enseigner le comportement et le langage qu'il faut avoir aujourd'hui pour décrocher un emploi. À travers cet apprentissage, le film révèle bien l'absurdité de ces nouvelles règles du jeu, car dans la façon dont candidats et accompagnants racontent les mêmes faits avec des mots différents, on perçoit à quel point les règles du jeu sont celles du langage que les candidats maîtrisent si peu. Le tournage a été facilité en partie par la localisation de la structure Ingeus qui se trouve en haut d'une tour, au milieu d'une sorte de terrain vague, mais les réalisateurs n'ont pas pu filmer les véritables entretiens d'embauche des candidats. Jamais moralisatrice, la caméra se contente de se poser comme un observateur attentif qui fait le constat amer d'une réalité.
Voilà, mais c'est effectivement intéressant d'avoir un documentaire. Je crois que celui-ci est très intéressant. Mais je crois qu'est venu le temps de rendre l'antenne. Merci à Marie-Jeanne, à Jean et Jean-Michel qui merci ont animé cette émission qui était particulièrement animée. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui nous disons à bientôt. Chant contre chant est programmé tous les quatrièmes mardis du mois de 13h15 à 14h et nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 24 février.